الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس السادس عشر من شرح كتاب التوحيد لمؤلفه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 28 août 2016 et nous entrons dans le 16e cours de l'étude du livre de l'unicité par son auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons conclu, achevé l'étude du chapitre de celui qui recherche la bénédiction auprès d'arbres, de pierres et tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant, Bab ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Chapitre concernant le sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah. En réalité, il suffisait de dire concernant le sacrifice pour autre qu'Allah. Parce qu'il peut être fait par égorgement, mais il peut être fait d'une autre façon, comme nous allons le voir dans ce que nous allons étudier, incha'Allah ta'ala. Donc, on parle de l'action de sacrifier une bête, bien sûr, pour un autre qu'Allah. On parle de l'immolation, dont nous allons définir l'essence, incha'Allah ta'ala. Mais avant tout, quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre lui-même ? La réponse est identique au lien qu'il y a entre le chapitre précédent et le livre. Car sacrifier une bête, immoler une bête pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un acte de shirk, de polythéisme. Il l'a donc mentionné dans son ouvrage, car il nous y enseigne le tawhid. Et si sacrifier une bête pour un autre qu'Allah est du polythéisme, alors le monothéisme dans cette action est de sacrifier la bête pour Allah. Il nous a donc enseigné le tawhid par son contraire. C'est du polythéisme majeur dans le tawhid al-uluhiyya, dans le tawhid de l'adoration, et qui entraîne du polythéisme majeur dans al-rububiyya aussi. Non. Taïb. Voici le lien entre le chapitre et le livre. Maintenant, le lien entre le chapitre et ceux l'ayant précédé, c'est que dans tous les chapitres ayant précédé celui-ci, on nous parle du shirk. Et l'auteur, rahimahullah, a commencé par le moindre et va, à travers tous les chapitres, se déplacer vers les plus graves. Les chapitres précédents traitaient surtout du polythéisme mineur. Maintenant, il est question du polythéisme majeur. Car le shirk commence par les shubuhat, les ambiguïtés les plus simples à réfuter, à dissiper, puis il avance dans son ouvrage et il amène les plus grosses ambiguïté. Donc c'est une suite intelligente et sage de la part de l'auteur rahimahullahu ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان. Ce chapitre, comme ceux l'ayant précédé, est en rapport avec une des catégories de polythéisme auxquelles s'adonnent certaines personnes à travers différentes époques. Min ahd al-jahiliya wa la tazal mustamirra. Depuis l'époque anti-islamique, depuis ou avant même que le prophète ne soit envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et cet acte ne cesse d'être pratiqué jusqu'à cette époque qui est la nôtre. Wa dhalika min ajli أن يتميز الخبيث من الطيب. Et ceci pour distinguer le bon du mauvais, le bien du mal. On nous enseigne ces choses-là. وَالْمُوَحِدُ مِنَ الْمُشْرِكِ وَالْمَهْدِي مِنَ الضَّالِ. Et aussi pour distinguer le monothéiste du polythéiste, le bien guidé de l'égaré. Allah Azza wa Jalla a dit: لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Si Allah avait voulu, il aurait guidé l'ensemble des gens. Cheikh Al-Fawzan a dit: وَلَكِنْ لَوْ هَدَاهُمْ جَمِيعًا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مِيزَةٌ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ. Mais si Allah avait guidé l'ensemble des gens, les gens ne seraient plus différents et il n'y aurait plus de gens qui sont meilleurs que d'autres. Donc ici, il nous enseigne qu'il y a une hikma, il y a une sagesse à travers cela qui est voulue par Allah. Cette sagesse pour laquelle il y a des bien guidés, mais aussi des égarés. Allah Azza wa Jal, par exemple, demande à son serviteur de prêcher la bonne parole. Si les serviteurs étaient tous vertueux et ne commettaient donc pas d'erreur ou de faute, de péché, à qui est-ce que l'on va prêcher cette parole à travers laquelle on cherche à réformer une personne qui peut être égarée ou commet des péchés ou alors a des manquements? C'est la sagesse d'Allah. Il dit: وَلَكِنْ اِقْتَبَتْ حِكْمَتُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُجْرِيَ الْإِمْتِحَانَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَيَّزَ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ. Mais par sa sagesse, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu éprouver ses serviteurs pour voir le bon du mauvais ou alors le pieux de celui qui ne l'est pas. L'auteur a dit dans le titre Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah, chapitre concernant le sacrifice ou l'immolation pour un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq, ce qui est relaté comme texte du Coran et de la Sunna, comme menace qui s'abat sur quiconque voudrait faire cet acte, d'immoler, de sacrifier une bête pour un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce qui est connu, c'est que cet acte, c'est du polythéisme, sans le moindre doute. C'est du shirk, wal'iyadu billah. L'auteur, rahimahullah, dans ce titre n'a pas cité le jugement. Pourquoi? Pour entraîner l'étudiant en science à prendre les jugements du Coran et de la Sunna. Et aussi parce que le jugement de cet acte est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté ni de doute quant au fait que immoler et sacrifier une bête pour un autre qu'Allah est un acte de polythéisme majeur qui entraîne l'exclusion de l'islam pour quiconque commettrait un tel acte. Wal'iyadu billah. C'est donc quelque chose de très grave. Ce qui est voulu par le terme arabe al-dhabh, al-dhabh, cela vient du verbe dhabaha et à la base ça signifie le fait de trancher. Le fait de trancher, comme on dirait, trancher la gorge de la bête pour le sacrifice. Donc, al-dhabh, en arabe, c'est, dans le sens linguistique, al-shaq, c'est-à-dire le fait de trancher. Et ce qui est voulu par le dhabh dans la religion, c'est cette définition qui a été donnée, izhaq al-ruh bi-iraqati dam ala wajhin marsous. C'est-à-dire sacrifier une âme en faisant couler son sang d'une manière spécifique. Izhaq al-ruh bi-iraqati dam ala wajhin marsous. Sacrifier une âme en faisant couler son sang d'une manière spécifique. Car l'immolation, le sacrifice, ne se fait pas comme bon semble à l'un d'entre nous. Il ne nous appartient pas à nous de définir la manière d'adorer Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est donc une manière spécifique. Et tout ce qui amène et entre dans le sens du dhabh comme sacrifice, peu importe que cela soit fait avec une lame, un couteau, ça peut être fait avec une arme, n'est-ce pas? Même si celui qui tue une bête avec une arme à feu par exemple, si ce n'est pas dans le cadre de la chasse, cette bête n'est pas licite. Mais il a fait ce qu'on appelle al-dhabh, dans le sens où il a sacrifié une bête en faisant couler son sang. Et s'il le fait dans le cadre de la chasse, il lance la flèche et il dit Bismillah. Puis la flèche atteint le gibier. La proie tombe et meurt. Cette viande est licite. Si elle n'est pas morte, au moment où il va la rattraper, il lui tranche la gorge. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Il s'agit donc de faire couler le sang d'une bête. L'auteur a dit l'irayrillah concernant le sacrifice, l'immolation pour un autre qu'Allah, c'est-à-dire recherchant à travers cela un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit un autre qu'Allah, l'irayrillah, c'est un terme global et général qui englobe tout ce qui peut être qualifié par autre qu'Allah, donc toutes les créatures d'Allah, c'est-à-dire celui qui sacrifie une bête pour un homme, pour un djinn, pour un ange, pour une tombe, pour un mur, pour un gourou, pour un groupe, pour toute autre chose, a commis du polythéisme. C'est comme ça que cela s'appelle et se qualifie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action, malheureusement, est répandue dans la terre d'Allah à très grande échelle, au point où l'on trouve beaucoup de gens qui, par exemple, lorsqu'ils acquièrent des biens immobiliers ou des voitures, qu'est-ce que ces gens font? Je vous parle de choses que j'ai vues. Une voiture ensanglantée, une voiture neuve, sur les portes, le toit, le coffre et les roues de laquelle il y avait des traces de sang avec des traces de mains. C'est-à-dire que l'on voyait que quelqu'un avait passé des mains ses mains ensanglantées sur la surface de la voiture. Après avoir interrogé sur cet acte, la réponse qui m'a été donnée, c'est que cette personne venait d'acquérir une voiture neuve et pour la protéger du mauvais œil, elle a sacrifié un poulet, puis le sang qui est sorti de ce poulet, elle l'a fait couler sur cette voiture. Wal'iyadu billah. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils acquièrent un bien immobilier, une maison, ils se disent il faut absolument que l'on protège notre maison du mal des djinns, des diables parmi les démons, des démons parmi les djinns. Car djinn ne veut pas dire démon directement. Djinn est une race. Chez les djinns, il y a des démons, mais il y a des croyants musulmans. Donc, chez les démons parmi les djinns, pour se protéger de leur mal, ils sacrifient en leur nom, wal'iyadhu billah, des bêtes au pied de la porte. Et ils disent, dès à présent ou désormais, notre maison, notre foyer est à l'abri du mal des démons, wal'iyadhu billah. Ou alors, ça peut être le fait de sacrifier une bête en prononçant le nom d'un gourou, d'une secte ou d'un prétendu pieux, vertueux, en espérant à travers cela gagner une bénédiction, une guérison d'une maladie, l'enrichissement après la pauvreté, la dissipation de calamités qui nous ont touchés, wal'iyadhu billah. Toutes ces actions sont du polythéisme, de la mécréance en Allah, du shirk akbar, wal'iyadhu billah. Tayyib. Il y a des notions à savoir. Lorsque l'on parle de dhabh, du sacrifice, il y a deux choses qui doivent être prises en compte dans ce sacrifice. La première, al-isti'ana, la demande d'aide. Elle se fait en prononçant le nom d'Allah lorsque l'on sacrifie la bête. On peut dire al-isti'ana ou al-tasmiya, la prononciation du nom d'Allah. Car lorsque l'on prononce le nom d'Allah en sacrifiant la bête, ce que l'on recherche à travers cela, c'est l'aide de celui dont on a prononcé le nom. Donc, nous devons dire Bismillah lorsque l'on sacrifie une bête. Certaines personnes vont dire, c'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi allez-vous donc me blâmer et dire que mon action relève du polythéisme alors que j'ai dit Bismillah? La réponse, c'est parce que il t'a échappé une deuxième chose. Ou alors, tu as fait semblant de ne pas la savoir. Qu'il faut avoir l'intention à travers ce sacrifice de se rapprocher d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est la deuxième chose qu'il faut absolument avoir au moment du sacrifice. Il faut donc prononcer le nom d'Allah, dire Bismillah, mais aussi avoir l'intention de faire ce sacrifice pour Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est ce que l'on appelle al-qasd. Il faut avoir al-qasd, le but, qui est la satisfaction d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bil-niyyat. Les actes sont pris en compte en fonction des intentions émises par ceux qui les ont fait, ces actes. Donc si tu dis Bismillah, mais à travers cette action tu recherches la baraka d'une tombe ou d'un mort, le simple fait d'avoir dit Bismillah ne te sera d'aucune utilité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc quelque chose de très important. At-tasmiya, de dire Bismillah, cela a un rapport avec Tawhid al-Rububiyya, avec la seigneurie d'Allah. Car si tu demandes l'aide d'Allah, c'est que tu as la conviction qu'Allah est celui qui t'aide. Et ça, c'est une des composantes de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième chose, al-qasd, l'intention, c'est une des composantes de Tawhid al-Uluhiyya. Car à travers ton intention, tu adores Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, sachez que le sacrifice a plusieurs catégories. Yarhamukallah. Première catégorie, Zabhun Bismillah Walillah. Une catégorie qui est le sacrifice de la bête au nom d'Allah et pour Allah. On a donc dit Bismillah en faisant couler le sang de cette bête, et ce que l'on a recherché, ce n'est que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sacrifice, c'est le tawhid. C'est le monothéisme dans le sacrifice. La deuxième catégorie, Dhabhun bismi ghayrillah, bismillah li ghayrillah. Le sacrifice au nom d'Allah, mais pour un autre qu'Allah. C'est-à-dire que la personne qui a sacrifié a dit Bismillah, mais elle ne l'a pas fait, ce sacrifice, pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle l'a fait pour le gourou qui est enterré dans la tombe. Et elle a dit Bismillah, mais auprès de la tombe, dans le but de se rapprocher de cette personne sous la terre. Wal'iyadu billah. Le simple fait d'avoir dit Bismillah ne rend pas son action valide et acceptée chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette personne a prononcé le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais elle a recherché un autre qu'Allah. Et ça, c'est du shirk akbar, wal'iyadu billah, dans l'uluhiyya, dans l'adoration. Troisièmement, le sacrifice de la bête au nom d'un autre qu'Allah, Azza wa Jal, et pour un autre qu'Allah. Là, il y a deux catégories de shirk akbar dans cette action. La personne dit le nom du djinn au nom de tel djinn. Et elle fait cette action pour ce djinn. Et ça, c'est ce que font les sorciers. Wal'iyadu billah. Et il y aura un chapitre sur la sorcellerie. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand il fait croire aux gens qu'il a des pouvoirs, qu'il est capable de faire bon nombre de choses surnaturelles, notamment connaître ce que la personne fait, ou alors des choses relatives à l'invisible? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir ces informations du passé de la personne? La personne se rend chez cet homme, et cet homme lui dit « Tu t'appelles un tel, tu viens de tel endroit, tu as eu tel passé, tu as fait telle et telle chose il y a 2 ans, il y a 3 ans, et la personne est émerveillée. Elle se dit, ça c'est quelqu'un de pieux, hada wali. Celui-là c'est un wali. Il est pieux, il est proche d'Allah, il connaît tout mon passé alors que je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Comment est-ce qu'il fait pour avoir ces informations? Nous avons tous un djinn qui essaie de nous conduire vers le péché. Ce djinn est collé à nous depuis notre naissance. Il connaît donc toutes nos informations, étant donné qu'il est à nos côtés depuis notre naissance. Le sorcier, que va-t-il faire? Il va solliciter et implorer l'aide des autres djinns, qui eux vont lui donner comme condition de sacrifier une bête pour eux. Il va prendre une bête et il va dire le nom des djinns et il va faire cette offrande pour les djinns. Qu'est-ce que ces djinns vont faire en échange? Ils vont aller voir le djinn qui est proche de cette personne concernée et lui demander des informations sur son passé. Puis ces informations vont être transmises au sorcier et le sorcier va dire à la personne: tu es né en telle année, hier tu as fait telle chose, avant-hier tu as fait telle chose. Et là la personne va dire: Wali, Wali, cet homme-là est vraiment pieux alors qu'il est vraiment impie. Wal'iyadu billah. Et d'ailleurs, un des salafs qui était un homme de tawhid a vu un sorcier qui s'amusait à dire à chacun des gens pour les étonner et les épater, pour les séduire et les éblouir. Il disait: toi tu viens de tel endroit, il t'est arrivé telle et telle chose à telle date, hier tu as fait telle et telle chose, et dans ta main tu as la somme de telle somme d'argent. Le salaf est venu et il a dit: je vais faire quelque chose, je vais prendre de l'argent dans ma main et tu vas me dire combien il y a. Et contrairement à ce que faisaient les autres qui eux prenaient cet argent et ils comptaient, et là le djinn qui était à côté l'entendait compter, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'argent dans sa main mais il ne l'a pas compté et il a mélangé les pièces. Puis il a fermé sa main et il a dit: dis-moi combien il y a dans ma main. Et là on ne pouvait rien lui dire. Il a dit: je ne sais pas. Il a dit: Naam, je sais que tu ne sais pas, car tu n'es qu'un faible serviteur. Donc il ne faut pas se faire tromper par les sorciers, par ces mushrikoun, par ces polythéistes, ces ennemis d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ils font ce sacrifice au nom d'un autre qu'Allah, pour un autre qu'Allah. Il reste la quatrième forme, c'est le fait de sacrifier au nom d'Allah. Est-ce qu'on l'a dit celle-là? Donc, le fait de sacrifier au nom d'un autre qu'Allah, mais pour Allah. Donc il dit: ce sacrifice, je le voue à Allah, c'est pour Allah que je le fais. Mais pourquoi as-tu prononcé le nom d'une créature? Il dit: c'est simplement pour prendre cette créature comme intermédiaire entre moi et Allah. Et ça, c'est ce qu'ils font dans beaucoup de pays. Ils se tiennent debout, ils amènent des bêtes, des moutons, des poulets au pied d'une tombe et ils disent, lorsqu'ils sacrifient la bête, le nom de la personne enterrée. Et tu lui dis: attention, c'est du shirk. Il dit: non, c'est pour Allah que j'ai fait ce sacrifice. Mais il ne sait pas qu'en citant le nom d'un autre qu'Allah, il a commis du polythéisme. Wal'iyadu billah. Donc le tawhid dans cette action, c'est de citer le nom d'Allah et de sacrifier pour Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. D'un autre point de vue, les savants ont donné plusieurs catégories au sacrifice. Il y a celui qui est une adoration et celui qui est une simple action permise. Une simple action permise, c'est simplement la personne qui veut manger de la viande. Nous sommes obligés de sacrifier la bête. Nous sommes obligés de prononcer le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais si tu demandes au boucher qui a son bétail, qu'il va sacrifier pour pouvoir vendre cette viande, pourquoi est-ce que tu le fais? Il te dit: je suis commerçant. Je vends une viande qui est halal, une viande qui est licite. Il ne cherche pas spécialement à se rapprocher d'Allah. Il fait simplement un acte permis licite. Il sacrifie une bête pour manger. Alors à lui, on lui dit: cite le nom d'Allah quand tu sacrifies, tout simplement. Et ça, c'est un acte permis. Il y a de l'autre côté le sacrifice qui est une adoration. Ce n'est pas simplement un acte permis, c'est une adoration. En quoi il consiste? Par exemple, le sacrifice du jour de l'Eid, le sacrifice à l'occasion de la naissance de l'enfant, l'Aqiqa, le sacrifice pour l'expiation des fautes pendant le pèlerinage, etc. Ici, on a pas simplement un sacrifice permis, mais on a un sacrifice qui est une adoration qui rapproche d'Allah en plus de ça. Subhanahu wa ta'ala. Dans le sacrifice qui est permis, ce qui rapproche d'Allah, c'est d'avoir dit Bismillah. Et dans le sacrifice qui est une adoration, le sacrifice du jour de l'Eid ou la naissance d'un enfant, etc., il y a la récompense du nom d'Allah qui a été cité, mais de l'adoration aussi. Un autre point à connaître, c'est que le sacrifice, al-dhabh, c'est l'action financière la plus méritoire. Et l'action physique la plus méritoire, c'est la prière. Donc, ce que l'on fait physiquement de meilleur, c'est la prière. Et ce que l'on fait financièrement de meilleur, c'est le sacrifice. C'est d'acheter une bête, puis de faire couler son sang, et pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que dans de très nombreux textes du Coran et de la Sunna, la prière est jointe au sacrifice pour montrer la grandeur de ces deux adorations chez Allah, et particulièrement la grandeur du sacrifice, puisqu'il a été mentionné dans beaucoup de versets après la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. Comme si Allah faisait attirer notre attention sur l'importance de cette action. Puisqu'elle a cette importance, on ne doit l'avouer qu'à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces notions sont assimilées? Révisez-les, insha'Allahu ta'ala. Ensuite, l'auteur a cité le premier verset. Wa qawlillahi ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. La traduction rapprochée du verset. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nul associé pour lui. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre ce message aux polythéistes à qui il s'adresse. Quel est ce message? Il s'y trouve des informations. La prière, le sacrifice, la vie, la mort, toutes ces choses-là sont vouées à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et à nul autre que lui. C'est l'essence même du tawhid. C'est la mise en pratique et la manifestation du monothéisme qu'il y a dans le cœur. Que de vouer la prière, le sacrifice, la vie, la mort et à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Que dire alors de ceux qui disent: ma raison de vivre, c'est mon enfant. Ma raison de vivre, c'est mon épouse. Ma raison de vivre, c'est mon commerce. Ma raison de vivre, c'est mon village. Ma raison de vivre, c'est ma mère. Tayyib. Avant la naissance de ton enfant, avant l'existence de ton commerce, avant l'existence de toutes ces choses-là, tu étais perdu? Tu n'avais pas de raison de vivre? Ta vie n'a trouvé un sens qu'après l'existence d'une créature? Quelle mauvaise raison de vivre que tu as! Ta raison de vivre, c'est l'ibada, c'est l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et toutes ces choses-là dont tu as parlé sont des choses qu'Allah t'a offertes. Comment peux-tu te montrer aussi ingrat et en faire ta raison de vivre, alors qu'Allah, le seul, l'unique, est lui, celui qui doit être adoré. Tabaraka wa ta'ala. Ceci étant dit, il y a des informations dans ce verset. Cheikh Abdel Razak al-Badr a dit que dans ce premier verset, il est fait mention de la prière. D'ailleurs, elle a été citée en premier pour montrer sa grandeur chez Allah. Et elle n'est plus à démontrer, mais c'est un rappel. Cette prière qui est le deuxième pilier de l'islam, et celui qui la délaisse a mécru, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour dernier, les gens qui ne priaient pas seront appelés à se prosterner, comme Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, wa yud'auna ila sujoudi, et ils seront appelés à la prosternation. Hein? et ils ne pourront le faire. Dans le tafsir du verset, il est dit qu'on leur demandera de se prosterner, mais comme ils ne le faisaient pas sur terre, leur dos va devenir solide comme du fer avec leur nuque. Ils n'arriveront plus à se rabaisser au sol. Wal'iyadhu billah. La prière et son importance. Ensuite, ce qui a été cité, c'est al-nusuk. Et al-nusuk, c'est le sacrifice. Le sacrifice de la bête, l'immolation de la bête, qui est la meilleure action financière que l'on puisse faire. Et d'ailleurs, dans le pèlerinage, il y a ces deux actions liées. C'est pour ça que c'est une des meilleures actions. Il y a les prières, il y a le sacrifice. Wa ma hiyaya wa ma mati. Ma vie et ma mort. Ma vie et ma mort. Comme a dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, ma ahya alayhi fi umri min al-ibadati kulluhu lillahi azza wa jal. C'est-à-dire, les adorations que je fais à travers ma vie, tout au long de ma vie, elles sont toutes vouées à Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa ma mati, ma mort, ay ma amutu alayhi. Et ce sur quoi je meurs est à Allah aussi. Tabaraka wa ta'ala, fayamutu ala tawhid. Il meurt sur le tawhid. Il déclare qu'il meurt sur le tawhid. Cheikh Saleh al-Fawzan a dit, fama'na al-aya, le sens du verset, annahu yahya ala tawhid, et qu'il vit sur le tawhid, wa yamutu ala tawhid, et qu'il meurt sur le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah, azza wa jal. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له. Puis il a confirmé ce sens en disant nul associé pour lui. في ذلك وفي سائر أنواع العبادة. Dans cette action, ces deux actions qui sont la prière et le sacrifice, mais aussi dans toute autre forme d'adoration à Allah. تبارك وتعالى. Donc voici ce qui est à retenir de ce verset. Le sacrifice a été cité juste après la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, pour montrer sa grande importance chez Allah. Ainsi, il ne doit être voué qu'à Allah seul. On ne doit sacrifier qu'en disant Bismillah et que pour Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il s'agit d'adorer. Sinon, si c'est simplement pour manger, on doit citer le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla a dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Dans Sourate Al-Kawthar, l'abondance, Allah Azza wa Jalla a dit إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ. Nous t'avons accordé l'abondance. Et l'abondance, c'est, selon certains savants, ce bassin qu'aura le messager sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier et qui lui sera réservé alayhi salatu wa salam. Et ceci pour répondre à ces polythéistes qui se sont qui ont été joyeux et heureux quand ils ont vu que le prophète n'avait plus de garçon, alayhi salatu wa salam, ils ont dit Muhammad est sans postérité, il n'a plus de descendance, n'ayez donc crainte. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, cette sourate, pour leur dire il n'a plus d'enfant, ne t'en fais pas, ô Muhammad, ô messager. Je t'ai accordé Al-Kawthar. Je t'ai accordé Al-Kawthar. Sois consolé maintenant. Et certains ont dit que c'est le bien en abondance. Puis Allah lui a ordonné, subhanahu wa ta'ala, de se montrer reconnaissant. Comment ? Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Ici, il est fait mention de An-Nahar. Et An-Nahar, c'est une forme de sacrifice. Al-Dhabh, c'est le fait de passer la lame sur la gorge et donc de la trancher. Alors que un nahr, c'est ce que l'on fait sur les chameaux, c'est le fait de poignarder le chameau. Le chameau, on ne le sacrifie pas comme la vache, la chèvre, le poulet. Le chameau, on le poignarde. On dit le nom d'Allah et on lui donne un coup de couteau au niveau de son cou sur le côté. Il s'écroule au sol et on attend que tout le sang coule de son corps. C'est ça que l'on appelle un nahr. Et ça, on ne doit le vouer qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui est à retenir de ce verset, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Prie pour ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire pour ton Seigneur, c'est وَأَنْ يُخْلِصَ النَّحْرُ وَهُوَ الذَّبْحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. c'est-à-dire de ne vouer cette adoration qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un ordre d'appliquer le tawhid à travers cette adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici ce qui concerne ce verset. Ce qui est à retenir de ce verset, أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة في الآيتين. Dans ces deux versets, Allah a joint à la prière le sacrifice, l'immolation, الذبح. C'est donc une adoration réservée à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur a cité le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui m'offre un verre d'eau, je ne dirai pas non. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: Haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba'i kalimat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de quatre paroles. Puis il a dit: La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie une bête pour un autre qu'Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. La'anallahu man awa muhditha. Qu'Allah maudisse celui qui abrite un criminel. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. C'est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que quatre catégories de personnes sont maudites. Ou alors, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala et lui a demandé de maudire quatre catégories de personnes. Car on voit que il dit la'an Allah, c'est-à-dire Allah a maudit. Ça peut être une information et ça peut être aussi une invocation contre ces gens-là. Allah a maudit, c'est-à-dire qu'Allah les maudisse. Si c'est une invocation, pourquoi alors c'est cette forme qui a été utilisée, Allah a maudit, et qu'on a voulu dire qu'Allah maudisse? Car quand on emploie cette forme, l'invocation est encore plus forte. C'est-à-dire Allah les a maudits. Qu'Allah les maudisse comme si qu'ils sont déjà maudits par Allah. Tabaraka wa ta'ala. On appelle ça ad-du'a bilafzil khabar. Ad-du'a'u bilafzil khabar. L'invocation avec des termes ressemblant à une information qui est donnée. Allah a maudit. Donc, ce que l'on peut retenir de ce hadith, la première chose, voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mention du sacrifice pour un autre qu'Allah avant les trois choses restantes. En tout cas, ces quatre choses sont des péchés majeurs. Pourquoi ? Car il y a une menace. Et quand il y a une interdiction citée dans un texte jointe à une menace qui est ici la malédiction d'Allah Azza wa Jal, alors cette interdiction est forcément un péché majeur. Ce sont donc tous des péchés majeurs. Et le premier cité, c'est dhabh li ghayrillah, le sacrifice pour un autre qu'Allah. Pourquoi ? Parce que c'est du shirk, c'est du polythéisme, c'est de donner un égal à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette grande adoration. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que veut dire Al-La'na, la malédiction? La malédiction, ou alors Al-La'n, maudire, c'est un des attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala min sifatihi Al-La'n. Yal'anu man yastahiqu Al-La'na. Parmi ses attributs, Allah maudit quiconque mérite la malédiction. Qu'est-ce qui découle de la malédiction ? At-tard wal-ib'ad 'an rahmatillah. L'éloignement de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que quand Allah a décidé de maudire quelqu'un et de faire s'abattre sa malédiction sur cette personne sera éloignée de la miséricorde d'Allah. Allah ne lui fera donc pas miséricorde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous prive pas de sa miséricorde. Allahumma arhamna ya rahim. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose citée ici, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Cela implique deux choses. La première, celui qui insulte ses parents. Celui qui insulte ses parents s'expose à cette menace. C'est-à-dire qu'Allah le maudisse. Wal'iyadu billah. Parce que les parents sont la cause de ton existence sur terre. Et même s'ils sont polythéistes, mushrikoun, ils ne croient pas en Allah, tabaraka wa ta'ala, tu te dois d'avoir le bon comportement envers eux. Et tu n'as pas le droit de les insulter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui insulte, qui maudit ses parents, c'est-à-dire celui qui insulte ses parents. Et il y a une deuxième manière qui échappe à beaucoup de gens de maudire ses parents, qui est la suivante: être la cause qui fait que des gens vont insulter tes parents ou les maudire. Comment cela? Tu insultes les parents de quelqu'un. Ce quelqu'un te répond en insultant les tiens. Là, tu as maudit tes parents. Et tu es pris par cette menace. Qu'Allah maudisse celui qui a maudit ses parents. Et cette information, nous la retrouvons chez l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Là, les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit: faqalu ya Rasulallah, ô messager d'Allah, kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi. Comment une personne peut maudire ses parents? Qala yasubbu aba ar-rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. L'homme insulte les parents de quelqu'un, ce quelqu'un en réponse insulte ses parents. Ou il insulte la mère de quelqu'un et en réponse ce quelqu'un va lui insulter sa mère. Donc il faut prendre garde à cela. Troisième chose, la'ana Allahu man awa muhditha. Qu'Allah maudisse celui qui abrite, en arabe, quelqu'un que l'on appelle al-muhdith. On l'a traduit approximativement par le criminel, et les savants ont dit al-muhdith, c'est celui qui a fait un crime méritant une sentence dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, ce criminel a été abrité par quelqu'un afin que la sentence ne soit pas appliquée sur lui. La loi divine ne soit pas appliquée sur lui. Wal'iyadu billah. Celui qui agit ainsi et qui donc abrite un tel individu s'expose à la mise à la Allahu Akbar, à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement grave que d'agir ainsi. Le Cheikh Salah al-Fawzan a dit: wal muhdith huwa alladhi fa'ala jurman yastahiqu 'alayhi iqamat al-had. Al muhdith est celui qui a commis un crime à cause duquel il se voit mériter une sentence. Puis quelqu'un vient et s'interpose entre lui et l'application de sa sentence en l'abritant ou alors en intercédant pour lui, wal'iyadu billah, et donc en corrompant la loi divine, wal'iyadu billah, tabaraka wa ta'ala. Et également, dans une autre version, on dit la'ana Allahu man awa muhdatha. Qu'Allah maudisse celui qui abrite, et là on ne dira plus muhdith mais muhdath. Là ça prendra un autre sens. Ces deux termes viennent du verbe ahdatha, qui veut dire faire une chose nouvelle. Donc le criminel, il est arrivé et il a fait quelque chose subitement comme ça. Un crime nouveau. Quelque chose qui est venu subitement. Muhdith. Muhdath, c'est un acte nouveau. C'est un acte nouveau, il s'agit de l'innovation. Comme l'a dit Cheikh Salah al-Fawzan, al-bid'a. Wa ma'na awal muhdath, qu'est-ce que veut dire abriter, accueillir une innovation? Ay radiya bihi. Agréer une innovation. Allahu Akbar. Celui qui agrée une innovation s'expose à la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Faman radiya bil bid'a wa lam yunkirha wa huwa yaqdir faqad awaha. Celui qui est capable de réprimander une innovation et ne le fait pas et donc atteste ou agrée l'innovation, a abrité l'innovation. Il l'a abrité, c'est-à-dire dans son cœur. Wal'iyadu billah. Cheikh Al-Fawzan a dit: Ay man ra'a al-bid'a wa sakata wa lam yatakallam fi inkariha wa al-bayan lin-nas annaha bid'a faqad awaha. Celui qui voit devant lui une innovation puis se tait et n'informe pas les gens que c'est une innovation, il se tait et ne dit rien, il a abrité cette innovation. Wal'iyadu billah. Ya'ni hamaha bi sukutihi wa tarkihi laha. C'est-à-dire qu'il a protégé cette innovation en se taisant. Et on n'a pas le droit de se taire sur la bid'a, sur l'innovation. Et on doit dire aux gens que l'innovation est une innovation. Sinon, comment les gens vont suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fayakunu mustawjiban lil-la'na. Il se voit mériter, à cause de cet acte, la malédiction. Fakayfa idha da'a ilayha wa dafa'a anha wal'iyadu billah. Que dire de la personne qui appelle à l'innovation et défend l'innovation? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Quatrième chose, la'an Allah man ghayyara manar al-ard. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Les délimitations de la terre, les savants ont trois paroles. Achir al-Fawzan les a citées. La première, al-marasim, c'est-à-dire, donc, comme le mot le dit clairement, les délimitations, les traces que l'on a mis sur terre, par exemple, pour délimiter deux terrains. À partir de cette limite, je ne suis plus dans mon terrain, j'entre dans le terrain appartenant à une autre personne. Et là, cette autre personne va venir la nuit et elle va changer cette limite. Elle va ajouter un mètre à son terrain et donc elle va me voler ce mètre, n'est-ce pas? Elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, où on va citer que pour l'instant on ne va citer que ce point-là et peut-être qu'on citera les deux autres points après, inshallah ta'ala. En tout cas, l'essentiel, c'est celui-là. Et ainsi s'achève ce hadith. Ensuite, l'auteur conclut par le récit rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, d'après Tariq ibn Shihab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قالوا به قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Et pour finir ce récit, d'après Tariq ibn Shihab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien sûr, les savants du hadith ont précisé qu'en réalité, cette parole mawqufun ala Salman al-Farisi radiyallahu anhu s'est arrêtée dans la chaîne de transmission du point de vue de l'authenticité au compagnon Salman al-Farisi. C'est donc une parole de Salman radiyallahu anhu. Elle est authentifiée d'après Salman radiyallahu ta'ala anhu. A dit, un homme est entré au paradis à cause d'une mouche. Un autre est entré en enfer à cause d'une mouche. Les compagnons demandèrent, comment cela se peut-il, ô prophète d'Allah? Il répondit, deux hommes cheminant rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Ils dirent à l'un des deux hommes, sacrifie quelque chose. Il répondit, je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Il dira à son compagnon, c'est-à-dire à la deuxième personne, sacrifie quelque chose, c'est-à-dire si toi aussi tu veux passer. Il répondit, jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. D'un coup d'épée, il fut tué et il entra au paradis. Masha Allah, Masha Allah, Allahu Akbar. La mort de cet homme. Il est mort sur le tawhid pur, sur la défense du tawhid, sur la manifestation du tawhid. Allahu Akbar. Et bien sûr, c'est un récit qui est arrêté dans l'authenticité à Salman al-Farisi. Comme a dit le Cheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Donc il s'agit de deux hommes qui sont en chemin. Et ces deux hommes vont avoir affaire à des gens qui, en chemin, ne laissent pas les gens passer cette étape de ce chemin sans qu'ils ne sacrifient et n'offrent pour une idole présente dans cet endroit une offrande. Et le premier arrive. Les gens lui disent « sacrifie ». Il dit « je n'ai rien à sacrifier ». Donc il n'a pas dit « je me désavoue de cet acte, je ne commettrai jamais un tel acte ». Mais il a dit « je n'ai rien à sacrifier ». Ils lui ont dit « sacrifie ne serait-ce qu'une mouche ». Et là tu vois que tu prends une mouche, tu l'écrases avec ton doigt en ayant pour intention de te rapprocher d'un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, zabahta li ghayrillah. Tu as sacrifié pour un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on voit que ce qui compte, ce n'est pas forcément la bête tuée, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. Alors si, en plus de cela, la personne dit, oh, pour tel gourou, il faut absolument sacrifier une belle bête qui a du poids et qui coûte cher, là, le péché, il est encore plus grave. Pourquoi ? لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ لِلْمَذْبُوحِ لَهُ. Car cela montre la vénération qu'il y a dans le cœur pour celui pour lequel on a sacrifié, qui est un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où l'on sacrifie pour un autre qu'Allah, on a commis le polythéisme dans le sacrifice. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc, il a sacrifié une mouche et on lui a laissé passer. Que s'est-il passé? Qu'est-il advenu de cet homme? فَدَخَلَ النَّارِ. Il est entré dans le feu. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit, cela montre que cet homme était un musulman. Regardez la profondeur de sa science. Pourquoi? Il dit parce qu'on dit de lui, il a sacrifié cette bête, il est entré en enfer. C'est-à-dire à cause de cet acte. À cause de cet acte, il est entré en enfer. Donc s'il était polythéiste déjà de base, ce n'est pas forcément à cause de cet acte. Il est polythéiste. Cela veut dire qu'il était monothéiste, il a commis cet acte, à cause duquel il est devenu polythéiste et il a gagné le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Comme l'a expliqué et détaillé aussi le Cheikh Abdelrazzaq ibn Abdel Muhsin, hafidhahum Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu peux commettre un acte qui t'exclut de l'islam. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Ces gens-là avaient une idole. On appelle ça sanam. On retrouve dans des textes le terme sanam, le pluriel est asnam, et on trouve dans les textes wathan, le pluriel est awthan. Quelle est la différence entre ces deux? Wathan et sanam sont des idoles, mais il y a une différence. La différence est la suivante: as-sanam ma ju'ila 'ala sura. C'est une idole ayant une forme, comme par exemple une statue d'un homme, le dessin d'un homme qui est adoré, etc. D'un animal qui est adoré, le veau en or. Le veau en or, c'est un sanam. Et al-wathan, ça peut avoir une forme d'une créature et ça peut ne pas en avoir, comme une tombe. Une tombe, on dit, c'est un wathan. Et donc, vous avez compris tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Et ça, on va l'étudier dans un chapitre plus tard, inshallah. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée, en employant le terme wathan. Et sanam, on le trouve dans le Coran avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Quoi qu'il en soit, ces gens avaient une idole. Ils ne laissaient personne passer sans que ces gens qui voulaient passer ne sacrifie pour cette idole, donc c'est un sacrifice pour autre qu'Allah, une bête, même une bête insignifiante à leurs yeux, une mouche. L'homme a dit: je n'ai rien. Il ne s'est pas opposé en vérité à l'action. Il a dit: je n'ai rien. قال الشيخ الفوزان اعتذر بالعدم ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز. Il n'a pas dit: le sacrifice pour un autre qu'Allah est interdit. Il n'a pas réprimandé. Cela montre que s'il avait quelque chose en sa possession, il l'aurait sacrifié en offrande. Ils lui ont dit: qarrib walaw dhubaba, fais une offrande, ne serait-ce qu'une mouche. Et lui, il l'a fait. Qul a'udhu billah. Et à ce moment-là, il a gagné le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Ils ont dit au deuxième: offre une offrande. Et là, il a répondu: ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah 'azza wa jall. Jamais je ne sacrifierai une chose pour un autre qu'Allah 'azza wa jall. Que s'est-il passé? Ils lui ont tranché la gorge. Que s'est-il passé pour lui? Il a gagné l'entrée au paradis. Et certains savants disent que le sens apparent du hadith, c'est qu'il a eu, vous souvenez, dukhul al-jannah, dukhul al-mutlaq wa dukhul ba'da zaman, l'entrée directe et l'entrée après être châtié. C'est que ce qui apparaît de ce hadith, à cause de la lettre fa en arabe qui signifie aussitôt après, si on peut le traduire comme cela approximativement, donc ça signifie qu'il a gagné l'entrée au paradis direct, parce qu'il est mort sur le tawhid et sur la défense du tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tashir Salih al-Fawzan a dit qu'il y a quelques points à tirer de ce récit, parmi lesquels: fihi jawazu al-ikhbari 'an al-umam as-sabiqa wa at-tahaddusi 'anha bima thabata li ajli al-'idhati wal-'ibra. La permission de parler des peuples nous ayant précédés, des nations passées, et de leurs histoires, dans le but d'en faire une exhortation et d'en tirer de bonnes conclusions. Ici, il s'agit de dire: regarde cet homme, il a sacrifié une mouche pour un autre qu'Allah, il a gagné le feu. Que dire alors de ceux qui sacrifient des grosses bêtes pour un autre qu'Allah? Surtout que certains disent qu'il a été contraint à le faire. On l'a contraint à le faire. Cheikh Abdelrazak a dit: que dire alors de gens qui ne sacrifient pas une mouche, mais une vache, voire plusieurs vaches, et en plus qu'ils ne le font pas sous l'effet de la contrainte? La gravité de ce crime chez Allah est bien plus grave. Wal'iyadu billah. Deuxième chose: ad-dalil ala tahrim al-dhabh li ghayrillah. La preuve de l'interdiction de sacrifier pour un autre qu'Allah, car vous avez vu qu'il a gagné le feu. Troisième chose: أن المدار على أعمال القلوب وإن كان الشيء الظاهر تافها لكن المدار على عمل القلب. C'est que ce qui est à prendre en compte, c'est l'action du cœur, ce qui se trouve dans le cœur au moment de l'acte. Même si ce que l'on va sacrifier est insignifiant à nos yeux, comme la mouche, mais à partir du moment où on a voulu un autre qu'Allah, c'est un crime gravissime. Quatrièmement, on voit dans ce texte que le monothéiste est proche du paradis et le polythéiste est proche du feu. Il n'y a entre eux et le paradis ou le feu que la mort. La preuve, il a sacrifié une bête pour un autre qu'Allah, il a gagné l'entrée au feu, wal'ayadhu billah. L'autre, il s'est fait tuer pour le tawhid, il est entré au paradis, il a gagné l'entrée au paradis immédiatement. Donc si tu es sur le tawhid, tu es très proche du paradis. Il n'y a entre toi et le paradis que la mort. Si tu es sur le shirk, tu es très proche de l'enfer. Il n'y a entre toi et l'enfer que la mort. Et enfin, cinquièmement, que celui, là, ça c'est ce que l'on a déjà dit, celui qui a sacrifié la mouche était un croyant, parce que c'est en sacrifiant la mouche qu'il a quitté l'islam et donc est entré et a gagné l'entrée au feu. Wal'iyadhu billah. Et comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ خَطِيرَةٌ جِدًّا. Cette question est très grave. فَأَيْنَ الَّذِينَ يَذْبَحُونَ لِلْقُبُورِ وَلِلْجِنِ. Où sont donc ceux qui immolent et sacrifient des bêtes pour les tombes, pour les djinns, وَلِلْشَيَاطِينَ وَلِلْعَفَارِيتِ وَلِلْسَحَرَةِ. Pour les démons rebelles, pour les sorciers. Beaucoup de gens se rendent chez le sorcier et disent « Ma femme n'arrive pas à avoir d'enfant. » Ou alors « Mon enfant est touché du mauvais œil. » Ou alors « Je me plains de la pauvreté. » Le sorcier lui dit « Pas de problème. Tu veux toutes ces choses-là ? Voici l'étape, la démarche à suivre. Amène-moi un poulet, amène-moi une vache, amène-moi une offrande. » Et quand on va la sacrifier, peut-être qu'ils vont lui faire porter un vêtement spécial, des rites particuliers, et ils vont sacrifier cette bête pour un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pour le sorcier, ils font ça. Et quand tu lui dis « Crains Allah », il te dit « Je sais, mais regarde l'état de mon fils. Je sais, mais regarde l'état de mon fils. » Dans une famille, il y avait un enfant touché peut-être par un djinn ou une maladie semblable. Au point où cette personne ne sortait plus de sa maison, certes, mais de sa chambre. Si bien que ses ongles ont pris une taille étonnante, ses cheveux ont pris une taille étonnante, une odeur nauséabonde se dégageait de lui. Il ne sortait de sa chambre que la nuit pour aller chercher quelques morceaux de pain à manger, puis il regagnait sa chambre, il était devenu tout simplement fou. Ses parents, qui ne sont pas dans le tawhid, qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir des sorciers, des devins, des charlatans, des gens qui font ruqya, tout ce qu'ils ont trouvé sur leur passage. L'essentiel, soignez mon fils. Wal'iyadhu billah. Et là, ils sont tombés sur des femmes sorcières qui leur ont dit, apportez telle et telle chose, n'oubliez pas la somme d'argent, bien sûr. Ils ont perdu des milliers d'euros. Wal'iyadhu billah. Et ils lui ont dit, la femme sorcière a dit, wal'iyadhu billah, à cette famille, tel soir, le djinn va venir chez vous guérir votre fils. Regardez comment ils appellent les gens au shirk et à la conviction qu'autre qu'Allah guérit. Wal'iyadhu billah. Ils sont restés toute la nuit. Imaginez-vous, ils meurent comme ça, à attendre la guérison d'un djinn. Wal'iyadhu billah. Il n'y a rien eu. Le lendemain, ils sont allés voir cette sorcière, elle leur a dit, c'est normal, il n'y avait pas d'indication, il est passé, il ne savait pas exactement où vous habitiez. Subhanallah, vous vous moquez de qui là? Et vous savez ce qu'un des enfants de la famille a fait? Il a pris un feutre ou un marqueur, et sur le mur du bâtiment, à côté de sa fenêtre, il a écrit en gros le numéro de son escalier et de sa porte. Pourquoi? Pour que le djinn arrive là, lui, et il voit le GPS, l'indication. Subhanallah. D'un côté, on en rit, mais d'un autre côté, ça montre que les gens n'ont plus de tawhid. Et après ça, on nous dit, arrêtez de nous ennuyer avec votre tawhid. Subhanallah, quand vous allez arrêter d'ennuyer les gens avec le shirk et la bid'a, on arrêtera de vous ennuyer. Et d'ailleurs, on n'arrêtera jamais, en réalité. Comment arrêter d'appeler les gens à Allah, tabaraka wa ta'ala? Comment arrêter d'appeler les gens à sacrifier pour Allah? Les gens sont perdus. Les gens ne connaissent pas ces textes. Ils ne savent pas qu'un homme a gagné le feu de l'enfer à cause d'une mouche. Il faut leur dire, il faut leur transmettre. C'est comme ça que la communauté va se réformer. C'est ainsi que on s'arrête. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.